Pierre Guillotin, nous sommes ici au Louvre, qui est fermé en principe aujourd'hui, mais qui a été ouvert pour vous. Que représente pour vous le Louvre ?
Le Louvre, d'abord moi, comme je suis originaire des régions, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de près de entre Lyon et le Puy, des régions très déshéritées sur le plan culturel. Donc je n'ai connu le Louvre d'abord que par un livre qui était titré « Les plus beaux tableaux du Louvre », qui était même pas en couleur, qui était un peu en sépia, mais où il y avait effectivement énormément de tableaux, même de dessins, je crois, reproduits. Donc j'ai commencé à connaître le Louvre comme ça. Et aussi, bien sûr, surtout comme tout le monde à cette époque-là, et comme tout le monde dans toute l'Europe, avec leurs musées respectifs, chaque nation avec ses musées respectifs, on pouvait apprendre la peinture ou voir ce que pouvait être la peinture, avoir conscience de son existence, déjà par les livres d'histoire, où il y avait énormément de portraits, de tableaux de genre, de tableaux de bataille, de tableaux de sacre, etc. Et beaucoup de portraits, bien entendu, hein, de tableaux de genre. Ça, c'est très important, car au Louvre, on retrouve absolument une grande partie des tableaux dont on a vu pour la première fois la reproduction enfant sur les premiers petits livres d'histoire, presque même avec des tableaux gravés, enfin adaptés, disons, même pour les enfants. Et puis après, il y a ce livre, des plus beaux tableaux du Louvre, avec évidemment les poussins. Tout de suite, moi qui m'ont immédiatement touché, l'inspiration du poète, oui, je crois, oui. Et puis toutes les saisons, etc. Mais c'est un poussin, vraiment, enfin, un de ceux qui m'ont tout de suite touché. Pourtant, c'était pas en couleur, si je peux dire. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu le Louvre. Les tableaux originaux que j'ai vus, c'est au fond les miens, et évidemment ceux qu'il y avait chez moi aussi. Il y avait quelques tableaux de peintres polonais, du reste de grand talent, donc des débuts du 20e, étant donné le lieu de naissance de ma mère. Et donc il y avait comme quelques tableaux polonais, de genre aussi, très beaux, avec des grands-pères tirant des petites filles dans des paysages de neige, avec extrêmement bas, avec des ciels très bas, des maisons basses, etc. Voilà. Mais il y a eu d'autres contacts avec la peinture, bien entendu. Mais enfin, donc le Louvre, c'est essentiellement ce livre, voilà.
Votre dernier livre, Progéniture, est un livre dont vous dites que c'est un livre de tableaux mis en musique. Donc d'emblée, vous placez la peinture et la musique comme deux grands référents de cette entreprise qu'est Progéniture.
La peinture est évidemment présente, enfin la peinture. Le coloris, enfin le coloris de la vie est évidemment là. Et évidemment le coloris aussi que les peintres en ont tiré. Non seulement le coloris, mais la forme, le dessin, les grands axes, le cadrage, les directions, le mouvement. Donc la peinture n'est pas plus présente dans... Ce n'est pas une référence pour moi, la peinture. C'est-à-dire que étant donné ce que je fais, la fiction que je crée, les figures que j'invente, je retrouve évidemment les positions, les couleurs, les mouvements que les peintres ont aussi trouvés, ou trouvés très vite. Hein. Donc ce n'est pas une référence proprement dite. Ça peut le devenir, on peut voir dans cette chose-là, cette somme, on peut voir les moments où effectivement il y a... peut-être des significations plus culturelles. Mais c'est la scène elle-même, et c'est donc l'âme qui anime toute cette somme, qui crée sa lumière, sa forme, ses mouvements et ses couleurs, bien entendu. Et oui. Je ne suis absolument pas différent de ceux qui me précèdent. Il se trouve que je vais assez loin non pas dans la déformation, comme on le dit, mais dans la mise en rapport et en continuité, surtout, d'une scène, du décor, avec le personnage ou du personnage avec le décor. Il n'y a pas de détachement particulier, c'est-à-dire tout rentre dans tout. Voilà. C'est peut-être ça qui est assez nouveau en matière d'écrit. Hein. Tout est plein et tout signifie. C'est comme au cinéma aussi, il faut que tout parle.
Lorsque je vous ai proposé de venir au Louvre, vous m'avez dit tout de suite, je vais revoir les tableaux de Frans Hals, de Goya, de Titien. Vous en parliez comme d'amis.
Mais ce ne sont pas des amis parce que quand on... On dirait, c'est plus que ça, ce sont des frères ou des sœurs, si je puis dire. Ils ont des frères, jusqu'à maintenant, il y a une très forte proportion de... dans la peinture, disons, d'hommes. Bon. Enfin, disons frères ou au sens générique, hein, au sens fort. Dès qu'on commence à pratiquer avec conscience et avec l'idée que ça sera une pratique à vie, si je peux dire, il est bien évident que les artistes qui vous ont précédé, quelle que soit leur discipline, deviennent vos maîtres, au vieux sens du terme, et vos pères ou vos pères aussi, voire vos grands-pères et vos frères, etc. Quelle que soit la date de leur existence, voilà. Et qu'au fond, tous ces gens, tous ces grands personnages deviennent les personnages véritablement, avec leur créature, deviennent les personnages peut-être les plus proches de toute votre vie, sur le plan intellectuel bien sûr, et même sur le plan affectif. La découverte, quand on est enfant, la découverte par la biographie ou par les œuvres d'un grand musicien, par exemple chez moi Schumann par exemple, ça a été absolument, le terme est faible, ça a été je dirais, indispensable, peut-être même dangereux, mais parce que c'est un personnage qui réunissait en lui, d'une certaine façon, tout ce qui à la fois me manquait et tout ce que aussi je voyais se profiler pour moi, éventuellement. Hein. C'est-à-dire l'art comme la pratique de l'art comme une pratique dangereuse. La nécessité d'un ordre de vie, d'un cadre de vie.
Tableau de Fragonard, qui est le portrait d'un jeune artiste. Il fait aussi partie de cette famille dont vous parliez.
C'est une peinture extraordinairement émouvante, et même déjà assez tragique au fond, car il y a un élan magnifique, et en fait déjà une inquiétude et une sur le sort, si je puis dire, qui l'attend. Car c'est un sort qui attend le tout artiste, je crois. Vraiment, un destin mais un sort aussi. Oui. Mais je voulais dire qu'il est tout à fait normal que quand un enfant ou un adolescent décide de faire de l'art, enfin, sans, en tant que c'est que c'est là qu'il va œuvrer, il est tout à fait normal que ceux qui l'ont précédé deviennent ses voies de prédilection et ses voies de VOX, ses voies d'encouragement. Hein. Et les peintres sont ici, deviennent comme les musiciens, comme les auteurs, comme les architectes, des gens, peut-être même comme les politiques, d'une certaine façon, deviennent les tuteurs, en quelque sorte. Voilà.
Nous sommes devant la marquise de la Solana de Goya. C'est un des premiers tableaux que vous aviez souhaité voir arrivant ici.
Parce que c'est un des plus grands du Louvre et que c'est un des plus grands de Goya. Et que Goya est avec Van Eyck, je trouve, peut-être Watteau. Pour moi, en tout cas, en ce moment, je dis bien le peintre devant lequel je me dis tout de suite, dès que j'en vois un, que c'est le plus grand. Voilà. Mais devant tous les Goya. C'est immédiat. Car avec Goya, on a non seulement... les gens disent, on niait, elle est là, elle est vivante. Non, elle n'est pas vivante, elle est morte. D'abord, elle est morte. C'est un extraordinaire tableau, car il est peint, je crois, par Goya, à la sortie de sa grande crise, d'une de ses grandes crises, mais de sa crise de surdité, quand il devient sourd. Je ne sais pas si c'est au même moment que Beethoven, c'est intéressant quand même, tous ces grands sourds, à cette époque-là, il y en a d'autres. Et il sort donc de cette crise, et on a l'impression qu'elle, c'est lui qui sort de cette crise. Elle a un visage presque délavé, extraordinairement fatigué, mais en même temps relativement confiant. Or, je crois qu'elle meurt quelques mois après. Donc il y a la rencontre de l'artiste qui sort d'une quasi-mort, hein, qui est la découverte de la surdité, et puis la jonction avec une femme dont il sent peut-être qu'elle va mourir. C'est un des plus magnifiques Goya, hein, avec ce gris, cette ligne qui descend, tout ça, ce bouquet de rubans rouge là-bas, ce extraordinaire visage qu'on dit androgyne, moi je ne trouve pas, personnellement. Je trouve un peu... c'est le mélange du chafouin et du sensuel, ce qui est quand même très très rare aussi. Ce qui est très rare. Elle n'est pas du tout terrible, elle est extrêmement rêveuse et elle regarde Goya. Ça ne peut pas être non plus inintéressant de regarder un artiste qui était déjà considéré comme un immense peintre. Hein. Goya a été très vite, tout même très, assez vite reconnu, quand il a vraiment peint. Hein. Le regard de la marquise. On ne pense jamais au regard que les portraitisés portent à celui ou celle qui les peint. C'est très important. C'est une indication aussi sur le peintre et sur le regard du peintre. Et ce qu'il y a de formidable avec Goya, c'est que non seulement on voit cette réalité, cette peinture, cette magnifique femme, mais en même temps, on voit ce qu'il a pensé, ce qu'il a vu. Il a dit, je crois, à propos d'une série de ses gravures, je crois, peut-être les Caprices, je ne sais pas. Il a dit, j'ai vu cela. C'est un des rares peintres qui a dit ça, un des rares artistes qui a dit, je l'ai vu. Or, c'est très intéressant parce que, effectivement, quand on est dans une fiction, comme la mienne, par exemple, qui se poursuit d'une façon à la fois bancale et extrêmement sûre, en même temps, un peu dans l'hallucination, c'est vrai. On est très loin du monde dans lequel on travaille. On se dit, est-ce bien vrai ? Et on voit vraiment la scène. C'est-à-dire qu'on a après cette problématique de savoir si ce qu'on a vu pourra l'être par le lecteur. Parce qu'on voit ça. Et d'une certaine façon, qu'on le voit, enfin pour moi en tout cas, ça ne donne pas à ce que je vois et à ce que je transcrit, qui n'est qu'une faible transcription de ce que je vois, un brevet d'authenticité. C'est ça qui est étrange. C'est que ce qu'on voit n'est pas forcément, parce que ça c'est l'idéal, ça, pour quelqu'un qui veut être artiste, c'est ça, c'est voir ce qu'il est en train de peindre ou d'écrire, ou même de musiquer, si je puis dire. Or, quand on est dedans, on s'aperçoit que c'est pas du tout qu'on voudrait au contraire peindre une réalité qu'on a devant soi, mais que tout le monde a devant soi. C'est cette réalité qu'on a à l'intérieur de sa tête, dans ses yeux. C'est étrange, du reste. Où est-ce que ça se passe? Chez un peintre comme chez un fictionneur comme moi. De tableaux de mouvements, d'actions, de fresques, de miniatures, de tout. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce le cerveau? Est-ce les yeux? Qui pourtant voit d'autres choses, qui voit tout simplement l'ordinateur, l'écran d'ordinateur ou la page sur laquelle on écrit. Mais c'est ce qu'on voit, on est tenté de le rejeter comme non-preuve de l'authenticité artistique de ce qu'on fait. Moi, je préférerais être souvent comme Zola, au fond, qui est là, qui a son machin, et qui écrit exactement ce qu'il voit. Ce qu'il voit, mais que tout le monde voit aussi, pour peu que chacun de ce tout le monde ait des yeux pour voir. Donc, ce qu'on voit avec Goya, ce qu'on voit, c'est non seulement la réalité, mais on voit aussi ce qu'il a vu. C'est une phrase d'inquiétude aussi. J'ai vu cela. Je l'ai vu. Enfin, croyez-moi. Croyez-moi en tant que peintre, pas en tant que visionneur. Croyez-moi en tant que peintre, en tant qu'artiste. C'est-à-dire d'autant de formes, je l'ai vu. Mais en même temps, j'ai vu cela et ça ne prouve rien.
On a dit de ce tableau que c'était un adieu à la peinture du XVIIIe siècle.
Oui, mais tous les grands tableaux sont des adieux. Mais ils sont des adieux non pas à la peinture de Tolté, c'est des adieux à toute la peinture. Toute grande toile est un adieu que l'artiste fait à son art, parce qu'il a tellement, tellement souffert sur ce tableau. Souffert, je dis quand je dis souffert, c'est-à-dire vécu à la fois là, une joie intense et une souffrance intense, et une angoisse intense. Bon, hein. Que adieu. Adieu à la peinture et adieu à Goya aussi. C'est Goya qui se dit adieu. Après un tableau pareil, on est épuisé.
Est-ce que Progéniture est aussi un adieu?
Mais je l'ai dit, du reste. Je l'ai dit beaucoup à Dieu d'abord. À Dieu. Qui est quand même une figure importante de ce livre tout de même. C'est pour ça que je ne peux pas parler tellement de livres. Parce qu'un texte où il y a Dieu n'est plus un livre. Et c'est pas le seul texte où il y a Dieu. Hein. Il y a des textes beaucoup plus modestes aussi où il y a Dieu. Le Dieu, le Créateur, hein, le Dieu biblique.
C'est un livre adressé à Dieu?
Ah, je ne sais pas. Enfin...
Commandé par Dieu?
Quel drôle de... Non, là c'est trop... Hein. Dans le sens, oui, où un accusé d'un épouvantable crime lui dirait « je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu », par exemple.
Nous sommes maintenant dans la salle des Le Nain et la Tour, que vous avez souhaité voir.
Oui. Et ce sont des peintres qui se situent dans une période que j'aime beaucoup, moi, dans l'histoire de France, qui est la période d'avant le classicisme, d'avant la glaciation classique, disons du deuxième classicisme, enfin du classicisme qu'on étudie en classe, hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire essentiellement Racine, etc. Alors pour moi, ce que j'appelle moi le pré-classique, c'est une période que j'aime beaucoup, en architecture, en peinture, en poésie. La poésie est très peu connue, c'est ce qu'on appelle la poésie baroque en France. Hein. Poésie qui tente la Pléiade et Malherbe, et la Bouillet-Boileau, enfin Malherbe, etc. Moi je trouve cette période extrêmement intéressante. C'est celle où je trouve le génie français s'est manifesté, entre autres avec d'autres périodes, avec le plus d'intimité, le plus de finesse. Et c'est donc, ça se situe avant cette glaciation classique où les figures redeviennent des figures de princes dans les tragédies, tout ça, etc. Des figures dont il faut bien dire qu'on se contrefiche quand même. Un peu quand même. Hein. En tout cas, moi, ça me gêne vraiment beaucoup maintenant, personnellement. Or, dans cette première moitié du 17e, on a encore cette attention des artistes et des auteurs à ce qu'on appelle la nature. Et il y a, dans la nature, il y a les paysans et il y a le peuple. C'est rare, ça, parce qu'au fond, après, c'est terminé. Le peuple n'existe plus. Le peuple n'existe plus. On le retrouve au 19e. On le retrouve un petit peu dans Rousseau, mais d'une façon tellement théorique. Et le nain, alors là, évidemment, on a une vision fixe. C'est la campagne, c'est la ferme. Alors, je ne sais pas ces intérieurs de fermes ont été peints, je ne sais pas, c'est peut-être un peu plus loin, peut-être dans la Marne ou en Champagne, dont ils étaient de l'an, les nains. Bon, alors en principe, ce sont ils faisaient ces tableaux à trois, mais cette veine réaliste et en même temps très enchanteresse, très mélancolique, très raffinée, c'est Louis, le nain. Voilà. Donc moi je suis très sensible à ça parce que c'est aussi, moi, des intérieurs. Je ne dis pas que j'ai vu les mêmes intérieurs quand j'étais enfant, mais j'étais dans une région extrêmement, extrêmement pauvre, dans la montagne. Et ce côté compact des vêtements, par exemple, ces gros vêtements, ces gros tissus, un sale, ces ustensiles qui traînent, cette grande placidité, et en même temps cette peur, parce qu'ils avaient de quoi avoir peur à l'époque. Et en même temps, cette confiance extraordinaire, cette beauté quand même. Aucun n'est marqué par un quelconque abêtissement. Pourtant, ils peuvent manger, ils vivent d'une façon très misérable, mais tous ont des têtes, des corps absolument, je ne dis pas princiers, ce serait presque une insulte pour eux, mais... Des corps beaux, vraiment des corps extrêmement beaux, extrêmement bien tenus. Il y a toutes ces petites échappées vers des lumières de forge ou d'âtre qui sont magnifiques avec des personnages debout. Toujours ces enfants mélancoliques, les petits musiciens toujours très beaux. Il y a la charrette qu'on a devant nous. Et il y a toujours ces personnages de musiciens qui me touchent énormément parce que aussi je ne sais pas si ça vient de là, mais je ne crois pas que ça vienne de là, parce que rien ne vient dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on fait, rien ne vient vraiment aussi de ce qu'on voit dans les œuvres qu'on aime. Faut pas... Le terme de référence n'est pas juste. On n'introduit pas des... On arrive aux mêmes conclusions. Voilà. Donc, dans ce que je fais, il y a beaucoup aussi de personnages musiciens. Mais des musiciens, des jeunes musiciens, des musiciens ambulants, des musiciens improvisés, mais qui ne sont pas des musiciens savants, hein, qui ne jouent pas une musique savante. Et le nain me touche à cause de ça aussi, à cause de son temps, à cause de ce qu'il a réussi à fixer, non pas comme témoignage, mais j'ai comme l'impression, comme c'est un immense peintre, qu'il est tellement original, la charrette derrière, c'est formidable déjà, c'est déjà toute la peinture du 19e déjà, hein. Il y a des espèces de touches à la Corot déjà, c'est formidable. Et il les présente à la postérité, au fond, à l'histoire qui va suivre. Et il les présente d'une façon digne. Il les présente dans une posture digne. Alors que cette époque, c'était une population accablée, massacrée, violée. C'est très beau, je trouve.
Vous citiez tout à l'heure Watteau parmi les peintres que vous préfériez. Nous sommes là en face du tableau, du fameux tableau de l'embarquement pour Cythère. C'est pour ce tableau que l'Académie a donné à Watteau le titre de peintre de fête galante.
Sur les fêtes galantes, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, aussi curieux que ça puisse paraître. J'ai toujours aimé les fêtes galantes, j'ai beaucoup aimé pratiquement au sortir de l'enfance, la musique de Schumann, parce que c'est aussi un musicien de fêtes galantes. Hein, le carnaval, les deux carnavals, bref, les papillons, tout ça. Et j'ai énormément aimé aussi toute la structure, disons, de fêtes galantes, aussi bien en poésie, en musique et en drame, parce que, au fond, Léonce et Léna de Büchner, c'est aussi une fête galante. J'aime beaucoup cette structure-là. C'est peut-être une sorte de nostalgie, peut-être d'un état familial qui, dans mon cas, a très vite disparu, peut-être. À savoir, beaucoup de personnes dans un même espace et des intrigues, des douceurs, je trouve ça très bien. Pour la naissance des drames, pour la résolution des drames, et pour toutes sortes de sentiments qui sont vraiment particuliers à ces moments-là et à ces agrégats humains, si je puis dire. Il y a des sentiments nouveaux qui se manifestent à ce moment-là. Des sentiments joués, des sentiments cachés. Je trouve ça très, très intéressant. Mais c'est un monde humain, Watteau. C'est comme Mozart, c'est un monde exclusivement humain. Et avec la grandeur, comme chez Mozart, par-dessus les choses, une immense mélancolie et une immense nudité, une immense presque naïveté, comme ce Gilles qu'on voit. Hein. Il y avait ça chez Mozart aussi, cette présentation de l'humain devant ceux qui vont le regarder après. Et puis avec une puissance, bon, chez Mozart, la puissance divine, évidemment, surtout à la fin de sa vie. Mais Watteau, c'est un monde exclusivement humain comme Mozart. Hein. Il n'y a pratiquement pas de nature, il n'y a pas de conflit politique. Il y a une réalité, comment dire aujourd'hui, sociale, hein, dans le Gilles. Il y a cette âne étrange derrière. Il y a aussi une peinture de Watteau qui n'est pas là, qui est un âne, qui est une étrange peinture, un âne. Mais il n'est pas là, et je l'ai vu dans une exposition de Watteau. Et je m'en souviens d'autant mieux que c'est devant ce tableau que j'ai perdu dans les années 70, j'ai perdu le fil d'une idée à laquelle je réfléchissais depuis plusieurs semaines. Je l'ai perdu et ça m'a rendu horriblement malheureux. Alors cette âne était devant moi comme une sorte d'image pas de ma niaiserie, enfin voilà. J'aurais plutôt voulu devenir un âne et cesser d'être humain, donc avec ces problèmes de jonction d'idées, de flux intérieurs, etc. Enfin, voilà. Mais ce tableau est phénoménal. On l'a vu dès qu'on a pu ouvrir les yeux dans les livres de classe. Mais cette lumière sur le haut du corps, cette espèce d'air à la fois pas vraiment nié, cet air de conscrit presque, c'est étonnant. Et c'est une figure admirable, toute heureuse, absolument pas. Le mal n'existe pas chez Watteau. Absolument pas. Toutes ces figures sont intéressées par la vie, intéressées aux autres, à la pensée des autres, à leur propre pensée. C'est bouleversant, vraiment. C'est vraiment bouleversant. Dans les grands tableaux et dans les petits qui sont derrière. Mais là, c'est l'image absolument éternelle. C'est ce petit couple au sommet du tertre. Ça bouge pas. Et puis toutes ces figures un petit peu entassées comme ça, c'est comme certains, comme dans des tutis de Mozart, avec des chœurs, dans les noces par exemple. Quoi que ce soit 70 ans avant, 75, 80 avant. Mais c'est vrai que là, quand même, l'analogie est impossible à éviter tout de même. Enfin, pour moi, c'est un des plus immenses peintres qui soit, bien entendu. Avec une originalité, une touche absolument, complètement nouvelle, qui se sent beaucoup dans les petits tableaux du reste. Presque une petite touche déjà à la Seurat, déjà. Ce qui est quand même le comble. Hein. On va peut-être aller voir les petits,
oui.
C'est vraiment le peintre qui fait aimer les femmes, je trouve. Le plus aimer les femmes, Watteau. Dans ce qu'elles ont le plus spécifique, vraiment. Et le plus irréductible, vraiment. Et qui les fait aimer totalement. Comme on ne peut aimer rien d'autre.